Alors, on en parlait à l'instant avec Patrick Azzopardi. Un autre air célèbre du Messie, c'est son ouverture, Comfort My People. Et c'est ce que vous venez d'entendre à l'instant. Alors, en spectateur, pour ce 14e numéro, aspire au sacré. En cette période de l'Avent, quoi de plus normal? Quelques jours en plus après le 8 décembre, où nous avons tous, bien sûr, pris place à la traditionnelle procession pour remercier Marie. En tous les cas, où nous sommes allés à l'opéra. Écoutez, le Messie d'Handel, mis en scène par Deborah Warner, une histoire de Dieu, de sa naissance à la passion, jusqu'à la jubilation de la résurrection, mais une histoire de Dieu qu'elle a voulu à hauteur d'homme, à l'image de ce petit garçon, Jésus, qui deviendra Christ, et qui, sur la scène, est incarné certains soirs par un enfant de la maîtrise et certains autres soirs par un enfant hip-hopper. Alors c'est ce que Deborah Warner a voulu faire ressortir, c'est cette universalité du Messie, de son message autant que de sa vie, et elle nous a plongé dans un univers moderne pour cela, à l'image de cette Marie qui va à l'hôpital pour accoucher, ben oui, une pièce qui parle à tous, qui parle d'amour, de naissance, de mort, quoi de plus humain, en somme, si ce n'est la fin et la résurrection, et les éléments surnaturels et surhumains, s'il en est. Alors il y avait de la poésie à l'opéra, normalement. Est-ce que vous avez été sensible à cette histoire de Dieu à hauteur d'homme réalisée par Deborah Warner? C'est toute la question et je me tourne vers toi, Florent, pour y répondre.
Alors oui, alors d'abord moi je me suis dit que c'était pas parce qu'on approchait de Noël et que ça parlait du Fils de Dieu qu'il fallait commencer à faire des exceptions. Donc je suis allé à cette pièce avec un esprit vide en faisant comme si je ne savais pas qui était le Fils de Dieu, voilà. Donc je vais tenter de faire une chronique comme si
Ce qui est
j'avais vu
très
la
intelligent de ta
pièce.
part, quand
Ah
même,
oui, quand
comme
même.
démarche critique, magnifique,
Ah,
hein.
j'ai fait un effort. C'est très très brechtien, je pense qu'on peut le
Je
dire.
pense, oui.
Donc Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, alors c'est sûr, comme scénario, c'est un peu court. C'est pas facile de faire une grande œuvre là-dessus, je ne te le cache pas, ça relève du difficile. Il faut broder, étaler, agrandir. Mais enfin, on a bien vu des histoires tenant en une seule phrase avoir un grand succès, du type l'enfer c'est les autres, ou encore en fait le psy c'est un fantôme, voire Jack est schizophrène et il se tape tout seul derrière les restoroutes. Les trois ont pas mal marché. Donc finalement, malgré la concision du synopsis, il y avait moyen de faire quelque chose de bien là-dessus. Même si cette histoire de sauveur du monde, ça sentait le réchauffé, genre grande production hollywoodienne. Après, bon, rien de bien original, comme l'a dit Thomas, découpage en trois parties, hein. Un truc sur la naissance du héros, puis la mort du héros, un certain Jésus. Alors là, comme moi, t'es ébahi, tu te dis, mais merde, putain, comment ils vont faire pour la troisième partie maintenant qu'ils ont tué le héros, ces cons-là en plein milieu?
C'est vrai
Et
que t'es
là.
vraiment très très vulgaire comme mec en fait, hein. Même dans ta tête quand tu te parles, hein.
Voilà, mais oui, non, mais c'est vrai, non, mais j'essaye de parler au peuple, tu vois, un peu, parce
Ah
que c'est
oui.
vrai que le Messie, a priori, a pas
Bonne
l'air.
idée, ouais.
À hauteur d'homme.
Donc voilà, à hauteur
Merci Irène.
d'homme du peuple. Et donc tu te dis, mais merde, comment ils vont faire pour la suite? Et là, bim bam boum, retournement de situation, le héros, en fait, il ressuscite, il sauve le monde de la mort, on a beau dire que ça fait un peu Deus Ex Machina, ça a quand même de la gueule. Alors la musique est pas mal réussie. Handel, qui ne semble pas en être à sa première bande originale, compose une musique assez joyeuse. Même la souffrance de Christ, le personnage principal, ne semble pas avoir trop touché le compositeur. Ou alors, comme c'était une composition pour Noël, il a fait un effort et fait chanter dans les chaumières sur le mode « Il est mort le divin enfant, mais c'est pas très grave, il va bientôt renaître. » Enfin bon, tous les personnages ont l'air au courant qu'il va ressusciter dès qu'il meurt au troisième acte. Moi je savais pas, j'étais un peu triste quand il meurt comme quand j'ai vu Boromir au début du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, j'étais vraiment détruit, quoi. À propos les copains, je crois que ce Handel, il n'en est pas à son coup d'essai. Il y a une chanson là, le Alléluia, qui est dans le Messie, je la connaissais déjà, donc je pense que ça devait être une pub pour SFR avant. Il a aussi fait la bande-son d'un film de Kubrick. Comme quoi, tu te cultives bien en écoutant cette émission, tu viens d'économiser 15 minutes à chercher sur Wikipédia pour savoir qui c'était. Donc bon, la musique, ouais, c'était pas mal, juste le côté dark de l'histoire est un peu passé à la trappe, et la majesté redoutable est transformée en un copinage de presbytère. Mais alors la mise en scène, là, bon. Il y avait le côté Noël dans la musique, ça je suis d'accord, mais après, ça devient carrément bizarre. Je pense que la metteuse en scène, Deborah Warner, si tu veux tout savoir, elle a aussi laissé tomber le côté souffrance du Christ complètement. Pour elle, la vie, c'est nettement une fête. Elle a eu des bouts d'idées qui partaient dans différentes directions, puis elle a pas sélectionné, elle a tout mis, paysages dévastés, réconciliation en mode Teletubbies, des câlins pour fêter la future destruction des rois par la colère de Dieu, fond d'écran Windows géant avec arbre doré, crèche jouée par des enfants déguisés en lapin, Marie, la maman du héros, sur un lit d'hôpital, et le spectacle de Noël se finit par une neige dorée sur le public. Je m'attendais même à ce que Papa Noël distribue des cadeaux dehors après tout ça, mais apparemment, c'était pas le bon soir. Il faut quand même rendre à JC ce qui appartient à JC. Il y avait de très belles images, très réussies. Mais quelques trucs m'ont particulièrement choqué quand même. Pendant toute la pièce, il y avait un enfant de 8 ans qui devait être une guest star célèbre parce qu'il était plus applaudi que le chef d'orchestre alors qu'il chantait pas, qui faisait des apparitions régulières pour serrer la louche à tous les comédiens et sauter sur des lits avec ses chaussures, ce qui m'a un peu agacé parce que Noël, c'est la fête des enfants sages et typiquement sauter avec ses chaussures sur un lit, c'est en général pas ce qu'on t'apprend, c'est pas un modèle tip-top pour les quelques enfants qui étaient dans la salle.
C'était le petit Jésus.
Oui, bah alors ça, bon, voilà, hein, ça, il paraît, mais alors le petit Jésus qui est toujours enfant au moment où il meurt adulte, enfin moi, j'ai pas, enfin je connaissais pas l'histoire, tu vois, mais ça m'a quand même laissé
un peu perturbé.
Bah la frise chronologique n'était pas entièrement respectée, tu sais, en tant qu'historien, je tiens à ce qu'elle soit suivie. Donc, autre moment étrange. Alors, je vous resitue la scène, bam, Jésus ressuscite sans effet pyrotechnique, et là, paf, le décor de souffrance se transforme en pelouse sur fond de ciel bleu. Il manquait juste les icônes de la suite Office et la corbeille dans le coin gauche, et on avait un sublime fond d'écran Windows. Et là, bon, tout le monde se réjouit, normal, le copain Jésus est revivant. Et d'un coup, il y a des mecs qui viennent faire du breakdance sur la pelouse, et ils repartent. Bon, c'était quand même un peu, il y avait de quoi laisser perplexe. Apparemment, de ce que j'ai entendu à la sortie, il y avait pas mal de gens qui connaissaient déjà l'histoire et qui ont quand même apprécié. Ils avaient déjà lu le bouquin. En tout cas, à mon avis, si vous avez entre 7 et 77 ans, n'allez pas voir ce messie. Relisez le bouquin chez vous en écoutant la musique de Handel tout court. Vous économiserez un billet d'opéra.
Relisez la Bible donc. Merci Florent. Alors Maxime, est-ce que tu es d'accord avec Florent? La musique de Handel, elle était pas mal réussie, pour le citer.
Comment dire? D'un point de vue musical, il faut déjà préciser que l'acoustique de l'Opéra de Lyon n'est pas exceptionnelle. Plus dérangeant niveau vocal, ça posait problème. Des quatre chanteurs principaux, donc on avait un ténor, une basse, une soprano et une mezzo. Enfin, une mezzo. La soprano s'en sortait très bien, mais le chanteur de basse était, comment dire, incarné peut-être par une chèvre à l'intérieur de son estomac qui le faisait brailler sur les mélismes d'une manière assez peu agréable, notamment dans le premier acte de l'oratorio. La musique est excellente et je suis pas tout à fait d'accord avec Florent quand il dit que c'est joyeux tout le temps, parce que quand même, Handel a écrit cela après une crise d'apoplexie, et c'est autant la résurrection du Christ que sa propre résurrection qui est à l'œuvre dans cet oratorio, puisqu'il a écrit en 3 semaines, dans une période de grande intensité créatrice, après avoir pratiquement succombé à une crise d'une grande violence. Et certains passages de l'œuvre sont profondément lents et tristes, avec notamment des basses obstinées ou des éléments de musique de composition typiquement baroque qu'on peut difficilement qualifier de joyeux. En effet, au moment de la résurrection, à la fin de la pièce, c'est plutôt une atmosphère d'allégresse qui domine. Mais sur l'ensemble de l'œuvre, c'est pas le sentiment qu'on retient.
Alors, pas musique de Noël non plus. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que la tradition veut qu'on donne le Messie à l'époque de Noël, alors qu'il a été écrit pour les fêtes de Pâques. Il a été donné la première fois en 1742 dans le temple de Durham à Dublin pour les fêtes de Pâques. Et donc, c'est pas du tout une musique de Noël comme tu peux le présenter, même si traditionnellement ça a été attaché à Noël. Alors, tu nous as parlé de la musique, Maxime. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la mise en scène de Deborah Warner? Une mise en scène donc assez moderne, mais avec ce parti pris, effectivement, de vouloir faire ressortir l'universalité des personnages et avec la fausse illusion de donner à voir, à la place de Marie une femme, à la place de Jésus un petit enfant.
C'est vrai que, sans vouloir paraître réac, à l'origine, c'est quand même une pièce liturgique et religieuse, sacrée, donnée dans des églises ou des cathédrales, chantée par un chœur et quatre musiciens et accompagnée, qui n'est pas particulièrement prévue pour une mise en scène.
Non, pas du tout, c'est la différence entre l'oratorio et les cantates ou les opéras.
Et la tendance contemporaine et actuelle, c'est de s'amuser à renverser ces codes et à mettre en scène ce genre de pièces. J'avoue que j'y allais avec un certain a priori, une certaine appréhension, parce que je préfère des représentations traditionnelles et classiques de ce genre d'œuvre.
En version concert, quoi.
Voilà. Et ici, on peut raisonnablement parler de demi-échec, je pense. Il y a de très très belles réussites visuelles, notamment dans la mise en scène. Moi, j'aime bien le jeu avec les écrans qui montent, qui descendent, qui sont coulissants pendant tout le long de la pièce, qui peuvent servir de fenêtres, de projection ou simplement d'illustration. Mais vouloir à tout prix rendre quelque chose de sacré, de divin, en quelque chose de trivial, en fait, de humain, de mortel, c'est un peu, je sais pas, très réducteur pour la pièce et on s'y perd, notamment cet enfant, comme l'a souligné Florent. On ne voit pas du tout dans la pièce que c'est le petit Jésus, parce que c'est comme s'il y a un dédoublement de l'histoire en fait. Lui, il est tout le temps là, il bouge pas, et l'histoire continue elle d'avancer. Donc et c'est vrai qu'un petit enfant qui saute un peu partout, on a du mal à se faire une idée que c'est le petit Jésus.
Et c'est ce que disait Patrick Azopardi dans l'interview qu'il donnait, et que vous avez écouté juste avant, chers auditeurs, c'est qu'il y avait ce parti pris qui est effectivement assez bancal. À la fois, c'est le Messie, donc on sait, il y a Marie, il y a Joseph, il y a Jésus, et cette volonté de Deborah Warner de faire croire que cette femme, c'est n'importe quelle femme, et qu'on ne sait pas où est Marie, et que cet enfant, c'est n'importe quel enfant, et que ça pourrait être David, et il se trouve que c'est un petit Jésus. Et toi, Irène, est-ce que tu as trouvé que ce défi, qui était quand même de taille, mettre en scène un oratorio, une forme qui n'est pas du tout prévue, avec qui n'a pas de dramaturgie propre, on va dire. Est-ce que le défi est relevé ou est-ce que tu parles de semi-échec, comme le disait Maxime à l'instant ?
Je suis d'accord avec Florent et Maxime pour dire que cette pièce, cette mise en scène m'a laissé perplexe. Et c'est une sorte de spectacle de Noël hétéroclite auquel j'ai assisté. Mais cela dit, je crois que le parti pris de Deborah Warner n'était pas un simple caprice, car il faut savoir que le Messie, c'est la pièce en tant que telle, même si c'est un oratorio, prend place à un moment spécifique dans l'histoire de la musique où l'oratorio est en concurrence, a été créé pour concurrencer l'opéra profane, et donc emprunte à l'opéra profane énormément de schémas. Et notamment dans la dramaturgie.
C'est l'oratorio qui sort de scène. On aura la même chose avec Hind et la création, où là c'est carrément un oratorio qui est monté sur scène, enfin qui est prévu pour.
Oui. Et donc il y a autre chose dans le Messie, c'est que le Handel a fait en sorte que le Messie soit une œuvre plastique et ouverte, car il a changé énormément d'air en fonction des interprètes. Et je me souviens de l'étonnement qu'on a eu à entendre un enfant chanter sur scène, mais ce n'est pas contre la tradition du Messie que d'adapter le livret et les textes musicaux aux interprètes, et notamment ces oratorios et tous les opéras de cette époque étaient écrits pour beaucoup de castrats. C'est-à-dire que la volonté n'est pas claire, puisque la volonté est de prendre l'oratorio pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'hétérodoxe. Donc ensuite, dans la réalisation, j'étais pas satisfaite, parce qu'on passe d'un moment sacré avec des lys dorés qui descendent du ciel, qui ressemblent à la descente du Saint-Esprit sur Terre, et en effet cette crèche de Noël vraiment ridicule, avec des enfants, avec des parents qui prennent des photos, et qui assumaient ce ridicule en partie, je le pense. Donc je comprenais pas où on allait, et je pense que à vouloir trop restituer le paradoxe de cet oratorio, on a perdu le spectateur. Et cependant, la fin avec la pluie d'or, on pourrait peut-être l'expliquer vis-à-vis de l'histoire musicale, on pourrait peut-être l'expliquer à la volonté de Handel de rendre ses opéras particulièrement spectaculaires, et notamment, j'ai noté que dans Rinaldo, qui est un de ses opéras, il a lui-même voulu faire un lâcher de moineau à la fin. Et peut-être que ça rappelait cette pluie d'or. Enfin,
alors Florence, je te voyais faire un certain geste.
Mais c'était réagir par rapport à ce que disait Irène tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle disait que c'était pas un manque à la tradition. À la limite, enfin, je pense que c'est même pas le problème, quoi. Enfin, on peut changer une pièce tant que ça marche. Là, le problème, c'est que finalement, le résultat, c'était quand même un gros échec, quoi. Enfin, pour moi, c'était un peu le Concorde qui se prend l'hôtel, mais sans même avoir eu le temps de décoller, quand même, ce Messie.
Pareil, compliqué, pareil, pas forcément réussi. Il y a vraiment rien à sauver dans ce que vous avez vu à l'opéra, rien, Maxime.
Si tout de même, comme l'a déjà cité Irène, le moment où les lys d'or tombent du ciel était techniquement réussi et tout à fait à propos. Pareil pour ce que Florent désignait comme un fond d'écran Windows. Il faut savoir qu'au moment où l'arbre d'or apparaît, c'est un écran qui le dévoile en se soulevant avec beaucoup de lenteur à la fin d'un morceau qui fait la transition en fait entre le mode mineur et le mode majeur de la musique et qui annonce l'alléluia finale du deuxième acte. Et c'était clairement, pour moi, le moment le plus réussi de toute la mise en scène.
Florent, le Concorde, il s'est pris l'hôtel avant de décoller, mais est-ce que quand même, dans le maigre interstice qui lui est resté, il n'y a pas quelque chose de bien qui s'est passé ?
Si, il y avait des très belles scènes, mais j'ai eu l'impression que c'était gâché par un espèce de populisme étrange. Et par exemple, mettre des gens qui faisaient du hip-hop alors que ça n'allait ni avec la musique, ni avec le décor, ni avec rien d'ailleurs. À part satisfaire une espèce de clientèle bourgeoise qui se dit « Ah ça y est, c'est Noël, tout le monde est réuni, on a même laissé rentrer des bougnoules à l'opéra », je vois vraiment pas quel intérêt ça avait.
Non, mais cela dit, remettre le sacré, elle voulait montrer le sacré dans le présent dans lequel on vit, pour montrer qu'il existe encore du sacré dans notre quotidien. L'hôpital est un lieu du sacré, parce que c'est le lieu de l'entraide entre les prochains. Mais c'est vrai que, comme dit Florent, à trop rester dans l'actualité, parfois, elle insérait des éléments qui étaient là pour faire actuel sans avoir de sens vis-à-vis d'un sacré quotidien, d'un sacré contemporain.
C'est effectivement la volonté de Deborah Warner, essayer de montrer le sacré dans la trivialité de notre quotidien. Mmh. Et apparemment, vous êtes resté à la trivialité du quotidien. C'est donc une faute de mise en scène, mais la volonté était là.
Si tu veux, le problème, c'est, je pense que le cas de la crèche faite par les enfants sur scène est un peu l'archétype de ce qui a pas marché dans cette pièce.
Ça vous a beaucoup marqué, apparemment. Hein.
Bah, oui, enfin, il y avait ça, mais même le premier chœur se passait dans une espèce d'église qui était symbolisée par des bancs alignés, ce qui suffisait, mais en plus derrière, il y avait une projection d'un Christ cucu sur un écran géant, genre un Christ comme ce qu'il y a sur les dépliants des évangélistes de mauvaise qualité, tu vois, enfin vraiment le. Un Christ rose bonbon, tu vois, ce petit côté un peu dégueu de la religion catholique.
Un Christ cucu, quoi.
Voilà, un Christ cucu. Et moi, j'ai eu l'impression pendant toute la première partie qu'il allait avoir une construction d'une espèce de critique de comment la religion était mise en place, surtout que Deborah Warner a été élevée dans une famille très croyante. Et Quaker. En fait, c'était juste des Quakers. Et donc, ça marchait pas, quoi. Enfin, elle a pas choisi. Il y avait des moments où on avait l'impression que ça esquissait une critique de quelque chose, ou au contraire des moments où c'était très beau. Et les deux ensemble, ça faisait juste que ça marchait pas.
En fait, le projet initial est intéressant, montrer le sacré dans le quotidien. Mais le résultat, c'est l'inverse. C'est, on a l'impression plutôt d'une invasion du quotidien dans le sacré et d'une destitution du sacré. Justement, la scène dont on n'arrête pas de parler et qui est assez révélatrice à ce niveau de la crèche, ça fonctionne comme une espèce de dégonflement total du sacré, puisque on a à la fois une illustration très kitsch, presque zéphyrélienne de la crèche, avec des couleurs flashy, des costumes juste pas possibles. Enfin, il faut imaginer quand même une troupe d'enfants déguisés en enfants, en animaux, avec des serre-têtes de lapins ou des choses comme ça, et un petit enfant de cœur qui vient chanter avec un track que l'on percevait quand même assez fortement dans la voix, tout seul sur scène, et je pense pas qu'il remplaçait un castrat, mais plutôt une soprano d'après le livret, au milieu de gens qui viennent en effet prendre des photos avec leurs appareils numériques et filmer la scène. C'est un non-sens absolu, vraiment.
C'est réaliste, ça rend compte précisément de la célébration de Noël telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai joué à un ange, moi, et j'ai joué une Vierge Marie parfois. Enfin non, j'étais brune, donc ça marchait pas, mais je l'ai fait, et je crois que...
C'est-à-dire ?
Non, mais je tenais l'enfant. Non, je jouais une bergère, je crois. Enfin bref, on s'en fiche.
C'était un
mouton,
alors.
Non, j'ai jamais été un mouton. J'étais un ange et une bergère.
Un mouton que tu tenais.
Mais cela dit, Mais cela dit, je trouve que, on avait vraiment des éléments du quotidien, et c'était pas du tout abracadabrant. C'était réaliste, cette scène de crèche. C'était vraiment une scène d'église le soir du 24 décembre. Mais justement, ce que tu dis, quand tu dis c'est zéphyrélien, ça aurait été bien si ça avait été justement zéphyrélien avec un sens, avec quelque chose de burlesque, ou voir dans l'esprit d'Endel baroque, mais c'était des morceaux de réalité collés à un texte sacré.
Et en tout cas, je suis très content de cette émission qui me fait ressembler à Mireille Dumas de plus en plus, puisque donc j'accouche tous mes chroniqueurs. On vient donc d'apprendre que Irène faisait partie de la crèche vivante de sa paroisse. Bravo! Alors, c'est ainsi que se termine notre voyage à l'opéra. Merci de nous être fidèles, malgré toutes ces confidences un petit peu triviales. Merci à Fabien aussi, qui nous a prêté main forte à la technique. Encore merci à Patrick Azopardi pour sa passion et son partage. Alors j'en profite pour remercier au passage Sophie Jarja, l'attachée de presse de l'Opéra de Lyon, pour son travail et son aide précieuse, puisque c'est elle qui nous permet tous ces contacts à l'Opéra de Lyon. Alors, si vous avez une envie irrésistible de musique classique, déjà, ne la réfrénez pas, l'opéra vous tend les bras, courez-y, écoutez jusqu'au 14 décembre Messie, vous ferez votre propre avis, même si ici les avis sont plus que mitigés. Vous pouvez d'ailleurs laisser des commentaires sur la page de l'émission pour crier au scandale si jamais vous avez adoré ce parti pris de Deborah Warner et sa réalisation. Sinon, le 13 décembre à 18h, ne manquez pas le concert du club de musique de chambre. en salle des thèses, site Mono, avec au programme Debussy, Schubert, Ketelbé ou Shostakovich. Un événement en partenariat avec Transistor qui l'enregistre et vous le rediffusera pendant les vacances comme cadeau de Noël, bien évidemment. Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Spectateur. Vous pourrez notamment entendre nos critiques sur deux pièces que nous vous annoncions précédemment, Les Ombres de Peter Pan, qui seront jouées les 12, 13 et 14 décembre en Cantor à l'ENS, et Chambre avec vue sur le fond des mers, à découvrir jusqu'au 16 décembre au Théâtre des Marronniers. Encore un beau programme dans Spectateur, donc, d'ici là. Surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en Spectateur.